Alors ce matin, on va assister à un coup monté. Un coup monté non pas par papa et moi, mais par l'Esprit. Parce que beaucoup de ce que l'Esprit a mis en moi de vous partager ce matin va faire écho à ce qui a été dit en première partie. L'éternelle petite enfance du croyant. C'est le sujet de ce matin. Et on rencontre ce phénomène dans beaucoup d'églises et je crois qu'on la rencontre aussi dans la nôtre. L'éternelle petite enfance du croyant. Alors, certains membres de nos églises, malgré des années de culte, malgré des années de messages, eh bien, en sont toujours au même stade. Ils ont sans cesse besoin qu'on s'occupe d'eux, qu'on change leur couche, je sais de quoi je parle, qu'on donne le bain, qu'on vérifie que le lait est à bonne température. Et on a parfois l'impression que l'Église ressemble davantage à une crèche qu'à une armée. Il nous arrive parfois de nous leurrer parce qu'on a l'impression qu'on croit, dans le sens croître. Mais en fait, on ne croit parfois que numériquement. Et on se dit que c'est ça, finalement, la croissance. Mais je vous le dis, croissance numérique et croissance spirituelle sont bien différentes. Elles ne sont pas une même réalité. Parce que je peux vous dire que les cimetières, par exemple, croissent numériquement. Avoir 100 personnes sans amour, puis 200 personnes sans amour, c'est juste s'engraisser, rien de plus. C'est juste grossir. Bien souvent, nous sommes conscients de cette situation, mais nous ne savons pas comment y remédier. Alors, on dit à nos membres, vous devriez porter du fruit pour Jésus. Vous devriez connaître la puissance de Dieu dans votre vie. Vous devriez avoir plus d'amour, plus de joie, plus de paix. Mais ce ne sont pas des qualités dont on peut s'attendre de la part de bébés. Elle ne se trouve que chez des adultes. Je fais écho, bien sûr, à ce que l'apôtre Paul a dit, notamment à l'église de Corinthe. Il se plaignait de la même chose en constatant l'absence de croissance spirituelle dans cette église à Corinthe. Il leur dit « Vous êtes encore des petits-enfants ». Aux Galates, il dut écrire qu'il éprouvait, vous vous souvenez, à nouveau les douleurs de l'enfantement pour eux. Et les destinataires de la lettre aux Hébreux ne sont pas en reste, parce que celui qui a écrit l'épître aux Hébreux leur dit qu'avec le temps, ils auraient dû être des maîtres et non plus des enfants. Ils auraient dû être maîtres de la foi, maîtres de la parole de Dieu. Mais non, ils avaient encore besoin qu'on leur enseigne les principes élémentaires de la parole de Dieu. Ils ne pouvaient se nourrir d'aliments solides, mais seulement de lait. Alors, j'ai un fils qui s'appelle Yona. Et si je lui disais, écoute, Pépère, donne-moi des petits-enfants. Maintenant. Il serait, bien entendu, incapable de me les donner. Et malgré toutes mes menaces, malgré toutes mes prières, malgré tous mes jeûnes, il aurait été incapable de faire ça. Pas parce qu'il est méchant ou bien rebelle, mais tout simplement parce qu'il est un enfant. Bien sûr, quand il grandira, il pourra me donner des petits-enfants, sans que je prie ou que je ne jeûne, parce que c'est le fruit naturel de la croissance. Alors, je vous raconte maintenant l'histoire d'un pasteur qui écrit ceci, et je me retrouve un petit peu là-dedans aussi. Il dit « Quand j'avais 8 ou 9 ans, notre église reçut la visite d'un prédicateur qui avait une barbe incroyable. Et en ces temps-là, les barbes n'étaient pas aussi populaires qu'elles le sont aujourd'hui. C'était donc inhabituel. Et moi, je tombais amoureux de cette barbe. On aurait dit un prince, un roi. Alors, je me mis à demander au Seigneur de me donner une barbe. » Je rappelle qu'il avait 8 ou 9 ans. Et je me souviens que j'en vins même à faire une journée de jeûne et de prière. Ma mère me demanda « Mais écoute, tu ne manges pas aujourd'hui ?» Et je répondis « Non, maman, je jeûne. » « Et pourquoi est-ce que tu jeûnes ?»«
C'est une requête secrète, expliquai-je. »
La barbe ne vint pas malgré mes prières et mon jeûne. Mais quand j'eus 16 ans, sans prier, sans jeûner, la barbe vint comme résultat d'un processus naturel de croissance et de développement. Dans l'Église, je crois que ce n'est pas différent. La croissance résulte de la vie. Quand nous sommes spirituellement vivants, nous croissons en amour, en joie, en paix, en patience, en douceur et dans toutes les vertus que Jésus-Christ nous enseigne et nous montre. Et ce sont là les fruits naturels de la vie spirituelle et aucun effort, je suis un peu provoque, mais aucun effort de notre part ne saurait les produire. Une des principales raisons du manque de croissance dans l'Église réside dans le fait que nous sommes axés sur des concepts au lieu d'être axés sur la vie. Nous sommes, on ne peut plus, conscients des doctrines auxquelles nous appartenons, du système théologique auquel nous souscrivons et des principes auxquels nous adhérons. Et je ne dis pas que ce n'est pas important, attention. Alors, qu'est-ce que j'entends quand je dis que nous sommes axés sur les concepts ? Supposons que vous me demandiez, écoute Jean-Simon, on serait intéressé de t'entendre sur le sujet de la joie. Fais-nous une étude biblique sur le sujet de la joie. Alors, moi, je serais très heureux d'accepter. Et j'irai à mon bureau, chez moi, je prendrai une concordance, j'irai sur Internet, et je chercherai le mot « joie ». Alors, dans ma concordance, je pourrai voir qu'il y a énormément de passages sur la joie. Je les noterai. Puis, je choisirai ceux qui s'accordent avec le message que je veux vous faire passer. Ensuite, je consulterai mon dictionnaire grec. Qu'est-ce que la joie en grec ? Oh, magnifique ! Et maintenant, l'hébreu. Encore mieux. Je me documenterai aussi sur ce que les grands commentateurs ont pu écrire au sujet de la joie. Remarquable. Et voilà, mon étude biblique est prête. Alors, je me présenterai comme aujourd'hui devant vous et je vous dirai « Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de la joie. » Le mot grec « chara » a un sens plus riche que le simple mot « joie » en français. L'hébreu est encore plus riche. Abraham a pu dire cela. Jésus, en parlant de la joie, a dit telle chose. Paul écrit à ce sujet telle chose. Spurgeon disait de la joie ceci. Et voici le commentaire de Godet. Et toute l'assistance pourrait me dire « Quelle belle étude sur la joie !» Merci Jean-Simon. Et quelqu'un proposera peut-être « C'était vraiment un excellent message sur la joie, est-ce que tu pourrais nous donner tes notes ?» Et je pourrais vous dire « Bah oui, je vais vous faire des photocopies et je vous les donnerai. » Alors, vous plierez vos feuilles de notes et vous les mettrez dans les pages de votre Bible. Et vous les oublierez. Et vous les oublierez. Parce que personne n'a la joie en faisant comme ça. Vous aurez peut-être le concept de la joie, mais vous n'aurez pas la vie de la joie. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour nous dans nos vies ? Avons-nous le concept ou avons-nous celui qui est la vie ? Certains s'imaginent que lorsqu'on arrivera aux portes du ciel, bien sûr c'est une petite boutade, hein, ne prenez pas ça au pied de la lettre, Jésus va nous accueillir en nous distribuant une feuille de papier et un crayon. Et il va nous dire 10 questions. 7 bonnes réponses sur 10 et vous entrez tout droit au ciel. Moins de 7, mais plus de 4, purgatoire. Moins de 4, mauvaise nouvelle, c'est l'enfer pour vous. Alors, première question, à quel baptême croyez-vous ? Réponse A, immersion. Réponse B, ablution. Aspersion, au nom de la Trinité, au nom de Jésus seul. 3 plongeons, passage sous une bannière. Cocher d'une croix, là où les bonnes réponses. Quel casse-tête. En plus, dans cette salle d'examen, pouvez même pas copier sur ceux qui vous entourent, parce qu'à côté, il y a un gars du triolo et l'autre côté de la réconciliation. Et que vous-même, vous êtes Église du Christ. Alors, peut-être que les trois vont mettre des réponses différentes. Il y en a qui font grand cas de questions de ce genre, et le résultat, je crois que ça a été la division de l'Église. Alors, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La doctrine, les concepts sont hyper importants. On l'a encore vu ce matin. Mais ce n'est pas la justesse de votre baptême, ce n'est pas la justesse de vos doctrines qui compte en premier. C'est la présence de Jésus-Christ dans votre cœur. Alors, au lieu de cet examen, Jésus ne sera pas là avec un tableau noir, papier-crayon, mais avec un stéthoscope. Et alors vous, vous arriverez peut-être bardé de tous vos livres de doctrine pour bien réussir votre examen, et vous demanderez à Jésus, « Pardon, Jésus, où est la salle d'examen ?» Et Jésus sortira juste son stéthoscope, le posera sur votre poitrine. Ah, je pense que ça bat bien à l'intérieur. Alors vas-y, tu peux rentrer au paradis. Et vous direz tout affolé, « Mais l'examen, c'est pour quand ?» Pas besoin de ça. Tu as la vie. Alors tu as ta place ici. Le salut, c'est passer de la mort à la vie. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères, nous dit la Bible. L'amour est la manifestation de la vie. Mais habituellement, quand quelqu'un ne croit pas ce que je crois, il y a de la haine au lieu de l'amour. Encore une fois, je ne suis pas contre la théologie, mais ce que je tiens à souligner, c'est que si on n'a pas la vie, on peut avoir la meilleure des doctrines, la meilleure des théologies. Si on n'a pas la vie, on est quand même mort. Les doctrines ont leur place, mais pas la première. La première est réservée à Jésus seul. Celui qui a le Fils a la vie. Ça, c'est ce que nous dit la Bible. Elle ne nous dit pas « celui qui a les bonnes doctrines a la vie ». Elle nous dit « celui qui a la bonne personne a la vie ». Quand nous avons Jésus dans le cœur et que nous vivons conscients de ce fait, nous commençons à croître spirituellement. Nous devenons plus semblables à lui. Sa vie en nous se manifeste de plus en plus dans notre manière de vivre. On le connaît, ce passage de l'apôtre Paul, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Si vous avez une joie qui s'en va, quand viennent les problèmes, elle a besoin de croître jusqu'à ce qu'elle déborde et que rien ne puisse vous l'enlever. Vous croissez spirituellement en amour, en joie, en paix, en patience. Si aujourd'hui vous êtes capable d'aimer plus qu'hier, cela veut dire que vous avez cru, sans jeu de mots, cru de croire et de croître. Ce n'est pas qu'aujourd'hui vous connaissez plus de doctrine qu'hier, cela ne vous servirait à rien. Cela ne servirait qu'à engraisser votre intellect. Il y a bien des années, quand j'entendais quelqu'un dire du mal de moi, j'essayais d'en dire autant, sinon plus, de lui. Par la suite, quand quelqu'un disait du mal de moi, j'essayais de serrer les dents et je ne disais pas de mal de lui. Ça, c'est mieux. Et je prie le Seigneur que viendra le jour où, quand quelqu'un se mettra à dire du mal de moi, je me mettrai à louer le Seigneur. Ça, c'est la croissance. Non, pour ressembler à Jésus, nous n'avons pas besoin de prier, de jeûner, de travailler et de confesser, mais seulement de centrer nos vies sur lui et savoir qu'il vit en nous. Et la croissance viendra naturellement. C'est sa vie en nous qui produit le fruit. L'ancien peuple d'Israël ne ressemblait pas aux autres nations parce qu'il était le peuple de Dieu. Il était un royaume de sacrificateurs que Dieu dirigeait par son esprit au moyen des prophètes. Mais ce peuple voulut ressembler aux autres qui avaient des rois pour conduire leur bataille. Et vous savez que ça a mené à leur perte, en tout cas à beaucoup de défaites dans ce peuple. Et c'est malheureux, mais l'Église a cédé parfois à la même tentation, en voulant devenir une religion comme les autres. Qu'est-ce qu'une religion ? Une religion a un fondateur, Mahomet, Bouddha, Confucius, etc. Le fondateur dit des choses que l'on écrit dans un livre, et quand le fondateur meurt, il laisse le livre, et ses disciples essayent de le suivre et de faire ce que le livre dit de faire. Les musulmans ont le Coran, ils prennent leur doctrine de ce livre, et ils sont bien pauvres par rapport à nous, ils n'ont que 4 écoles d'interprétation. Dans notre religion chrétienne, nous avons un fondateur qui est Jésus-Christ, qui est mort il y a longtemps. Ce qu'il a enseigné a été écrit dans la Bible, et maintenant nous prenons toutes nos doctrines de la Bible comme s'il était mort, comme Mahomet. Alors, nous avons les calvinistes, nous avons les luthériens, nous avons les mémonites, nous avons les prémillénaristes, les postmillénaristes, les amillénaristes, tant de doctrines différentes, toutes au sein de la même Église. Et puis nous nous combattons à coups de versets bibliques. Prends ça, et puis ça. Et nous agissons comme si le fondateur était mort, comme ceux des autres religieux. De cette manière, nous rabaissons Jésus-Christ à leur même niveau. Nous nous plaignons de ce que les musulmans placent Jésus au même niveau que Mahomet, mais nous faisons exactement pareil. Parce que le Christ est pour nous ce que Mahomet est pour eux. Alors nous faisons comme si Jésus n'avait plus de parole pour aujourd'hui. Il ne peut plus rien faire aujourd'hui. Oh, il a enseigné des belles choses, mais c'est du passé. Il est parti. Nous avons ce livre et c'est tout. Mais Dieu soit loué pour ce livre. Dieu soit loué parce que ce livre, la Bible, nous dit que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant, et ça, c'est la grande différence entre nous et les autres religions, c'est que notre fondateur est vivant et qu'il est effectivement le chef de l'Église. Et le problème pour nous, c'est que nous ne lui laissons pas faire grand-chose. Tout en ayant le concept de ce qu'il est le chef de l'Église, dans les faits, il ne peut régner parce que tout est réglé par nos doctrines. Quand on va à l'Église, on entend parler de la femme samaritaine, de Zachée, des 10 lépreux, de la malédiction du figuier, de l'apaisement de la tempête sur la mer, de Bartimée l'aveugle, de la multiplication des pains et des poissons, et puis encore une fois, de la femme samaritaine, de Zachée, des 10 lépreux, de la malédiction du figuier, de l'apaisement de la tempête sur la mer, de Bartimée, la multiplication, et puis encore de Zachée, de la femme samaritaine, des 10 lépreux. Comme si Jésus n'avait plus rien fait depuis sa mort. Il doit vraiment s'ennuyer parfois en entendant nos sermons. On dirait parfois des éloges funèbres, parce que lors des funérailles, on parle de ce que le défunt a fait de son vivant. Et on ne met plus en application ce que Jésus a fait pour la vie de ces gens, dans nos vies. Alors qu'est-ce que Jésus fait dans ma vie aujourd'hui, au travers de l'histoire de Zachée, au travers de la femme samaritaine et de toutes ces histoires ? Je m'aperçois que je suis un peu long, je suis désolé, il me reste 2 pages. Alors, le centre de la vie de beaucoup de gens n'est pas Jésus-Christ, et ça va peut-être vous faire écho, et ça me fait écho aussi à l'intérieur de moi. Le centre de la vie de beaucoup de gens n'est pas Jésus-Christ, mais les activités de l'Église. Nous allons au culte, et du culte à l'étude biblique, et de l'étude biblique à la chorale, et de la chorale au culte. Et ainsi de suite. Nous passons tout notre temps dans des réunions. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis que ce n'est pas suffisant. Nous arrivons même à mesurer notre spiritualité d'après notre fréquentation aux réunions. Quelqu'un qui fréquente toutes les réunions est très spirituel. Oh là là, celui-là, c'est un excellent chrétien. Il a été là à toutes les réunions. Mais s'il lui arrive de sauter 2 ou 3 cultes du dimanche, oh là là, celui-là, il est en train de rétrograder. Je ne suis pas contre les réunions, je vous l'ai dit. Mais je me demande ce qui se passerait aujourd'hui si toutes les églises devaient fermer. Qu'adviendrait-il de notre foi, de notre religion ? Christ, et non les réunions, doit être le centre de notre vie. Pourquoi s'étonner de ce qu'on ne voit pas plus de croissance dans le peuple de Dieu quand nous sommes si axés sur des concepts au lieu du Christ vivant ? Dieu merci, nous vivons ces expériences-là aussi en Église. Nous vivons le Christ vivant en nous. On ne se satisfait plus de cet état de choses. Nous en avons parfois marre d'essayer de vivre comme Jésus en ayant l'impression de ne jamais y parvenir. Nous voyons notre manque d'amour, notre manque de joie, et nous aspirons de tout notre cœur à une révélation de la connaissance personnelle de Jésus-Christ, afin de ne plus être des lettres mortes, mais des lettres vivantes. Et je le souhaite, je souhaite faire partie de cette génération de chrétiens qui savent que l'Église est axée autour d'une personne qui vit en eux. Jésus ne nous a pas simplement laissé un livre en disant « Je vous laisse la Bible, d'ailleurs tenez, elle est reliée, tout est bien orthographié, il n'y a pas de faute. Essayez d'en tirer le maximum en vous servant de concordances, de commentaires. À plus. » Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit « Voici, je serai avec vous. » Il dit aussi « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Il a dit aussi « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous. » Il ne nous a pas laissés orphelins. Lui-même demeure en nous. « Je ne vous laisse pas avec un simple livre, je suis là dans vos cœurs. » Paul priait afin que les enfants de Dieu puissent savoir que Christ vivait dans leur cœur par la foi, pour être fortifiés par le Saint-Esprit dans l'être intérieur. Nous avons besoin aujourd'hui de savoir que Christ vit en nous. Nous avons besoin de savoir que nous ne vivons plus notre vie tout seul, mais que Christ est désormais notre vie. Nous avons besoin de reconnaître que puisque notre vieille nature a été crucifiée avec Christ, désormais il vit en nous. Parce qu'il est notre vie, nous avons son caractère en nous. Nous n'avons pas besoin d'essayer de copier par nos propres efforts ce que le livre dit de la manière dont il a vécu. Nous n'avons pas besoin de jeûner ou de prier afin qu'il nous donne plus d'amour, plus de joie, plus de paix. Il nous suffit de savoir que nous avons l'auteur du livre en nous et qu'il est lui-même toutes ces choses. Quand nous savons ces choses, la croissance, elle vient naturellement. Les changements se produisent dans nos vies parce que l'on peut voir davantage de Christ en nous. Il n'y a que cette révélation de Christ en nous qui puisse produire la croissance de fruits spirituels. Fixe les yeux sur le Maître. C'est précisément ce que nous allons faire en lisant ce livre qu'est la Bible. Fixez les yeux sur Jésus, notre Sauveur et notre vie, tant individuellement que collectivement, en tant que son Église. Jésus doit être au centre de l'Église, en être la vie même. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous fixons les yeux sur toi, afin que nous puissions savoir que nous avons ta vie en nous et que nous puissions vivre cette vie par la foi. Amen.